Bonjour à chacun. Bonjour, nous avons passé de bons moments. C'est bon de se retrouver pour un temps pour célébrer celui qui est le Rédempteur. Nous l'avons proclamé. Vous savez, ce mot Rédempteur veut dire qu'on a été racheté. Si on a été racheté, ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. On appartient à un autre, à celui qui nous a rachetés. C'est solennel comme propos. Je ne sais pas si on mesure toujours quand on chante, on a la joie, mais on proclame des choses extrêmement fortes. Alors bonjour à chacun et à chacune. C'est le temps des vacances, donc certains sont partis, d'autres sont visiteurs. Soyez, oui, les bienvenus. Et que je prie ce matin que la parole de Dieu puisse tomber avec douceur dans les cœurs. Jésus, lors de son ministère terrestre, a accompli de nombreux miracles et prodiges. Même ceux qui n'ont pas lu toute la Bible ont entendu parler de ces choses. Des fois, même les incrédules disent parfois, devant telle situation, il n'y a plus qu'à prier. Ma propre fille, il y a quelque temps, elle dit, en effet, dans cette situation, il n'y a plus qu'à prier. Je dis, oui, c'est ce qu'on va faire. Et on va prier le Dieu vivant, un Dieu qui exauce. Jésus accomplit de nombreux miracles, des guérisons, des délivrances d'hommes et de femmes possédés par des esprits impurs, des résurrections. Ne dira-t-il pas à Marthe, qui était désespérée après la mort de son frère, « Je suis la résurrection et la vie ». Et puis elle lui a encore dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et la parole, nous allons le relire ce matin, nous dit que le but premier de ces miracles, outre la manifestation de l'amour de Dieu pour sa créature, c'est que nous croyons. Que nous croyons quoi? Que Jésus n'est pas simplement un simple homme, mais qu'il est le Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, celui en qui le Père a mis toute son affection et qu'il a donné afin que nous soyons pardonnés et réconciliés avec lui, avec le Père. Alors je vous invite à relire les trois passages que nous avons lus la semaine dernière. Nous avons lu dans Luc 4, et nous allons le reprendre, des versets 14 à 21, qui est en fait une reprise des versets d'Ésaïe 61, donc 700 ans avant Jésus, et que Jésus s'attribue finalement comme son ministère. Nous allons lire ce passage-là. Ensuite, nous lirons le récit de trois miracles qui, dans les évangiles, sont rapportés dans plusieurs évangiles, et ces trois miracles sont toujours rapportés ensemble. J'insisterai, vous verrez pourquoi, il y a une raison à cela. Et puis enfin, nous lirons dans Jean 20, les versets 30 à 31, où il nous est rappelé que les miracles qui nous sont rapportés sont pour fortifier, étayer et fonder notre foi. Alors je vous invite à lire tout de suite dans Luc au chapitre 4, les versets 14 à 21. Luc chapitre 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Cette parole est accomplie, Jésus le proclame, peu le comprennent. Pourquoi elle est accomplie? Parce qu'il est là, Jésus, et lui sait qui il est. Il est le Fils de Dieu, il est la manifestation du royaume de Dieu venu sur terre. Nous allons lire ensuite dans Luc au chapitre 8. C'est une lecture qui est assez longue, mais je voudrais lire le récit des trois miracles cette fois-ci. Donc nous lirons dans Luc 8 du verset 26 au verset 56. Jésus a déjà accompli, il est avec ses disciples. Et il a accompli plein de miracles, il a apaisé la tempête, il a fait déjà beaucoup de choses. Ils abordèrent, verset 26, dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se le jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Cet homme pousse un cri, c'est en fait les démons qui sont à l'intérieur de lui qui s'expriment. Et les démons qui sont des anges déchus, j'y reviendrai, savent qui est Jésus, lui. Ils savent bien qu'il est le fils de Dieu. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié à de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Comprenons déjà que pour Jésus, un homme délivré, ça vaut mieux qu'un troupeau de porcs, quelle que soit la richesse que cela représente. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle, alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle Et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Enfin, nous allons lire dans Jean chapitre 20, juste deux versets. Jean chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et enfin, le Jean 21, verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait, les derniers versets de l'évangile de Jean. Nous voyons trois situations, les trois miracles. Cet homme possédé d'une légion de démons, une légion c'est plus qu'une dizaine d'hommes, c'est je pense au moins une centaine, sinon plus. On pourrait dire un pauvre homme, peut-être errant dans les rues, et j'ai souligné la semaine dernière que c'est des situations que nous rencontrons aujourd'hui. Alors on ne prononce pas ces mots, on ne dit pas qu'il y a des démons, et pourtant, j'allais dire des gens sont chargés, prisonniers de ces esprits méchants dans beaucoup de situations aujourd'hui. La deuxième personne qui nous est présentée là, rien à voir. Un religieux, un responsable religieux, chef de la synagogue, mais qui vit une situation terrible. Il a une fille unique qui se meurt. La troisième personne, une femme qui traverse une épreuve physique depuis une douzaine d'années. Elle a des pertes de sang au-delà des périodes ordinaires chez la femme. Trois situations désespérées qui, à vue humaine, plongent dans la tristesse les personnes concernées et souvent leur entourage. Il n'y a pas de solution. Je pense que les uns ou les autres, peut-être pas quand on est tout jeune, on a pu être épargné, mais je pense qu'on ne peut atteindre la quarantaine, ou voire un peu plus, sans avoir connu des situations de deuil, des situations pour nous-mêmes ou dans notre entourage, de la mort qui s'approche ou des situations de maladie qui conduisent au désespoir. On n'ose parfois même pas prononcer. On parle d'une longue et pénible maladie dans les journaux. Combien aujourd'hui de maladies, et il en vient un peu tous les jours, de nouvelles, peuvent atteindre nos vies. La première situation, j'y reviens très rapidement, le démoniaque habité d'une légion de démons. J'ai développé cette première situation concernant cet homme possédé par des puissances mauvaises, démoniaque, comme Jésus lui-même le déclare. Je rappellerai simplement quelques points essentiels. D'abord, et je le disais, cette situation, elle est très actuelle et sous nos yeux tous les jours, au point que, je redis, les autorités du pays s'inquiètent, tant se multiplient les enfermements psychiques de toutes sortes, provenant souvent d'addictions diverses. L'actualité, on voit cette semaine une femme d'une quarantaine d'années qui, troublée, enfin, en possession d'elle-même, a suscité cet incendie pour une cause finalement bénigne au démarrage, et ça prend une ampleur, on ne sait pas, on dirait aujourd'hui, quel film elle se fait. Eh bien, tout simplement, il y a dans les vies, en raison du péché, en raison de ce que l'homme est marqué par la chute, depuis la chute, ma foi, eh bien, tout homme, c'est pas comme le dit Rousseau, l'homme n'est pas bon, et ce serait la société qui le dépraverait, même si ce que nous vivons aujourd'hui montre qu'il y a vraiment des choses terribles qui se passent, mais toutes sortes d'addictions, toutes sortes de messages visuels, auditifs, toutes sortes de débauches. Les gens ne se rendent pas compte qu'en se livrant à des désordres de tous ordres, sexuels, de regarder des choses pas possibles, d'entendre, de voir des films d'horreur, etc. On dit tout ça, c'est bien, ça fait des sensations, sauf que ce n'est pas innocent et ça provoque des choses parce que l'être humain, j'y reviendrai, il est esprit à mes corps et il peut être souillé, troublé et des désordres graves que l'on traite aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques ou par toutes sortes de traitements, ce qui fait qu'on voit des gens, des fois, excusez-moi, mais déambulés. Ça rassure la société parce qu'il y a cette peur finalement. Hein, il y a en nous des choses parfois qui nous font peur et comme on ne veut pas les confronter, on essaye de se distraire. Le monde se distrait, voulant oublier ça et mettant à l'écart ce qui est hors norme selon la norme du monde. Je soulignais que le monde décrit ces choses, des symptômes, on les multiplie, mais décrire n'est pas résoudre. Derrière cela, il y a des souffrances énormes, énormes pour les personnes qui vivent ces choses, ces enfermements et pour l'entourage. Parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Tous ne vivent pas dans des cimetières, mais combien à travers toutes sortes de jeux. Je pense vraiment aux choses audiovisuelles. Ça peut amener d'ailleurs des ruines, parce que d'abord ça coûte. Je tiens à le souligner, j'ai encore des situations qui me sont rapportées où des enfants sont avec les téléphones ou la télécommande de la télé et conduisent à des situations financières extrêmement délicates. Je n'avais pas prévu, mais moi je crois qu'il faut qu'on doit être attentif. On a une responsabilité en tant que parents. Le prince de la puissance de l'air, il agit aujourd'hui à travers toutes ces choses et amène dans des situations très préoccupantes. Hein. Et en tout cas, ça amène dans des enfermements extrêmement importants et des angoisses et des tristesses dans les maisons. Nous avons recherché à partir de cette situation ce que cela nous enseignait. Nous avons vu plusieurs choses, je les reprends rapidement. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Rappelons que les démons sont des anges, c'est-à-dire des esprits qui sont au service de Dieu dans le monde céleste, et qu'un certain nombre, suivant Lucifer, le porteur de lumière, un chérubin puissant au service de Dieu, eh bien, ont suivi Lucifer dans leur révolte et ont été, nous dit la parole, précipités, c'est extrêmement important. Le jugement de Dieu s'est abattu auprès de ces anges qui voyaient, ne l'oublions pas, la face de Dieu. Hein, il est dit dans la parole que l'homme ne peut voir Dieu et mourir. Nous le pouvons, nous verrons un jour Dieu face à face, parce que l'œuvre de Christ a accompli son œuvre, elle a effacé nos péchés, et nous pourrons le voir face à face. Les anges sont des esprits qui voyaient Dieu face à face, et ceux qui se sont révoltés ont été jugés à l'instant et ont été précipités. Une autre puissance étant en face de cette puissance qui possédait cet homme, c'est celle du Dieu créateur à travers la personne de Jésus et manifestée par son Fils. C'est la puissance du Fils, cette fois-ci, une puissance que le Fils a et qu'il tient du Père parce qu'il est soumis à son Père. Et par cette obéissance parfaite, Jésus va rétablir l'homme dans sa relation avec son Créateur. Le premier a tenté d'usurper la place du Créateur et a été précipité sur la terre. Le second, Jésus-Christ, n'a pas revendiqué son égalité avec le Père et s'est abaissé du ciel sur la terre. Il est venu parmi nous, il est venu né d'une femme, né sous la loi, conçu du Saint-Esprit. Et dans cette situation de confrontation qui a lieu sur la terre, il s'agit bien d'un combat spirituel, d'une situation inédite au moment où nous la lisons dans l'Évangile. Et d'ailleurs, les gens qui voient Jésus se disent « Mais quel est celui-ci qui a le pouvoir de chasser les démons et les esprits impurs ?» Cela ne s'était jamais produit dans les temps avant, et on ne trouve pas ça dans l'Ancien Testament, parce que cette fois-ci, Dieu est présent sur la terre, à travers la personne de son Fils. Et sa seule présence fait que les démons, qui occupaient sans doute l'âme et le cœur de plusieurs personnes, cette fois-ci ne peuvent plus résister. Ils sont dévoilés. La lumière démasque les ténèbres. Quel est celui aussi qui pardonne les péchés? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ceci nous est rapporté afin que vous croyiez, vous aussi, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que vous ayez la vie en son nom. J'ai développé cela la dernière fois. Je m'arrête là. Un dernier point. cette libération, parce que cet homme finalement qui était possédé, nous voyons bien que ça dépasse. Ça dépasse l'homme, ça dépasse les moyens de l'homme, ça dépasse même la psychologie. Il y a quelque chose qui s'est opéré par la présence de Dieu, par la présence de l'Esprit de Dieu. Cet homme a été libéré instantanément, à tel point que lui qui était nu et qui était dans les sépulcres se retrouve assis au pied de Jésus, en paix, vêtu et dans son bon sens. Voilà l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, je vous en parle avec cœur, parce que j'ai connu dans ma famille une situation comme ça. J'ai connu cette parabole, pas cette parabole, ce miracle qui est rapporté aussi dans les évangiles, et c'est pas mon propos ce matin, j'avais pas prévu, mais un enfant, un jeune, qui se jetait dans l'eau et dans le feu. Et Jésus va le rétablir. Je sais qu'au milieu de nous, peut-être vous qui nous visitez ce matin, vous vivez des situations, vous connaissez des situations terribles et vous ne savez pas comment en sortir. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, est celui qui libère les captifs et qui annonce aux prisonniers la délivrance. Délivrance. C'est ce Dieu-là, ce Dieu puissant. Un dernier point que je voulais souligner là-dessus, c'est que on aurait pu imaginer que les hommes qui connaissaient cet homme emprisonné, parce que on peut dire c'est un démoniaque, on peut juger, condamner, mais c'est d'abord, pour ceux qui vivent ces enfermements, une souffrance sans nom, indescriptible. On aurait pu imaginer que ceux qui ont été témoins de ces choses se réjouissent. Eh bien, figurez-vous qu'ils ne se réjouissent pas, ils sont dans la frayeur, au point de demander à Jésus de quitter le territoire. Tout ça pourquoi ? Parce qu'une centaine de cochons ont perdu la vie dans l'affaire. Parce que, et je peux comprendre, que l'éleveur qui avait ses cochons, qui en prenait grand soin, les a perdus. Je ne sais pas s'il avait une assurance. Mais il se passe là quelque chose qui était beaucoup plus grand. 50 cochons ou 100 cochons qui sont perdus. Un homme a été libéré et rendu libre et rendu à la vie. Voilà pour cette première situation. Une situation qui nous parle donc d'enfermement et de liens spirituels. C'est au-delà du psychisme, des liens spirituels. Avec le monde spirituel existe. Il est prêté, vous savez, à Malraux, cette phrase, le 21e siècle sera spirituel, ne sera pas. Le 21e siècle est spirituel. C'est-à-dire le 21e siècle est passionné par les choses, le monde spirituel. Il y a toutes sortes d'esprits et de mondes spirituels. Il y a toutes sortes de puissances. Il y a la puissance des ténèbres, il y a la puissance de celui qui est lumière de ce monde, Jésus-Christ, qui nous a rachetés. La deuxième situation, une autre catégorie sociale est touchée cette fois-ci. Un chef religieux dont la fille est mourante. Cet homme, Jaïrus, est chef de la synagogue, un homme qui, sans aucun doute, connaît les Écritures. Quand la Bible parle des Écritures, il s'agit de l'Ancien Testament. Et cet homme est touché de plein fouet dans son âme, dans ses entrailles. Sa fille unique d'environ 12 ans se meurt. Là aussi, des situations, finalement, courante. Nous ne connaissons pas le nombre de jours qui nous sont réservés. La maladie frappe, tantôt quelqu'un d'âgé, tantôt quelqu'un de plus jeune. Nous pouvons tous connaître à un moment de telles épreuves. C'est une épreuve pour la foi, pour celui qui croit, qui conduit parfois à vaciller à douter. Je voudrais d'abord, pour ce responsable, resituer le contexte. Les chefs religieux, au moment du ministère de Jésus, sont en opposition envers Jésus, qui a déjà accompli des miracles et en plus a prononcé ses paroles envers un paralytique. Ça nous est rapporté dans Marc. « Tes péchés sont pardonnés » avant de le guérir. Et là, les chefs religieux ont dit « Mais qui est celui-là ? Mais il se prend pour qui celui-là ? Car seul Dieu peut pardonner les péchés. » Ça, c'est exact. Ce qu'ils n'avaient pas compris, ce qu'ils n'avaient pas vu, ou peut-être qu'ils ne voulaient pas reconnaître déjà, c'est que l'homme qu'ils avaient en face de lui était Dieu. Et donc, il y a, les chefs religieux, il y a un climat d'opposition qui va croissant jusqu'à la condamnation devant le Sanhédrin et puis la mort à la croix. Une opposition envers Jésus, une opposition énorme. Jaïrus fait partie de ces chefs religieux. Je vous dis ça parce que il a fallu que la détresse de Jaïrus soit grande pour qu'il ose faire ce qu'il fait. Car Jaïrus, voilà d'abord un chef religieux, il se mêle à la foule, nous dit le texte dans le verset 40. Car il n'y a pas le choix s'il veut s'approcher de Jésus. Il n'a pas eu une audience particulière auprès de Jésus. Jaïrus prend un chemin d'humiliation pour qui il est. Il se mêle à la foule, lui le chef religieux, le chef de la synagogue. Il s'approche, non seulement cela, il se jette aux pieds de Jésus et adresse sa demande. Il supplie Jésus d'entrer dans sa maison. Il n'en est plus à se présenter comme celui qui connaît la parole de Dieu, qui a des droits. Il se mêle à la foule. Il se jette aux pieds de Jésus et lui adresse sa demande. Il supplie Jésus d'entrer dans sa maison. Il fait fi de son statut, de ses connaissances religieuses. Il reconnaît celui qui peut tout. Mais voilà qu'au moment où il fait ça, Jésus se met en route et des obstacles se dressent. Tandis que Jésus répond à sa supplication, voici un obstacle qui retarde l'intervention de Jésus. Une femme avec une perte de sang veut elle aussi s'approcher. Je reviendrai sur la démarche de cette femme, mais je voudrais simplement rappeler à ce stade le statut de la femme par rapport à l'impureté liée aux pertes de sang. Je ne peux pas développer ça ce matin, mais nous lisons dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, dans les ordonnances de l'Ancien Testament, qu'il y a des lois qui décrivent ce qui est pur, ce qui est impur, tant chez l'homme d'ailleurs que chez la femme. Il y a, on pourrait développer, il y a à la fois dans ces affaires-là, des mesures de bon sens, on pourrait dire d'hygiène, et d'ailleurs, pourquoi pas le reconnaître. Il y a plus que ça, il y a une notion spirituelle aussi derrière cela, mais ce n'est pas mon propos ce matin. Simplement pour vous dire qu'une femme qui avait des pertes de sang était considérée comme impure, de même qu'un homme qui avait certains écoulements, etc. Donc, pour le peuple juif, et de manière, j'allais dire, légitime, une femme dans une situation comme ça n'a pas le droit de s'approcher. Donc je reviens à mon ami Jaïrus, lui chef religieux, qui vient se jeter aux pieds de Jésus. Jésus se met en route pour aller chez lui, et voilà qu'il y a un obstacle. Quelqu'un, une femme, qui est dans une situation pas parfaite au niveau de la loi, vient toucher Jésus et ça stoppe le processus. Et figurez-vous que ce retard conduit à ce que maintenant il y a un serviteur qui vient de chez Jaïrus et qui dit « Jaïrus, laisse tomber, ta fille est morte, n'importune plus le maître, c'est fini pour toi. » Pour l'homme, oui, c'est fini. À vue d'homme, la situation, c'est réglé. C'est fini. Il n'y a y a la mort qui est là. Mais pas pour Dieu. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Alors on peut dire, on est assez bon pour proclamer la parole de Dieu, Seigneur, tu le fais, etc. Attendez, qu'est-ce qu'on aurait fait là? On a fait la démarche, il s'est humilié. Ça pose question, pourquoi Dieu permet-il des fois que des situations aillent si loin? Ne pouvait-il guérir cette jeune fille devant la supplication sincère d'un père qui s'humilie? Frères et sœurs, Dieu sait ce qui est nécessaire dans chacune de nos vies pour déraciner toute confiance en nous-mêmes, toute confiance en la chair qui est prête à refaire surface. Lui accomplira l'impossible en ressuscitant cette jeune fille. Et alors, un homme religieux aura reconnu Jésus pour ce qu'il est, l'enfant qui nous est né, le Fils qui nous a été donné, le Prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Alléluia. Le souverain, promis par les prophètes, mais ce souverain qui règne pour l'éternité. Alors, la foi de cet homme, elle sera fondée. Il aura été humilié, mais pas pour rien. La troisième situation qui nous est présentée, une femme avec une perte de sang. La situation, cette fois-ci, c'est le corps de cette femme. C'est une situation qui amène l'épuisement, qui amène une forme de désespoir, qui amène sûrement à se dire, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette maladie qui dure? En plus, un enfermement, cette fois-ci, dans la honte. Cette femme connaît cette situation depuis 12 ans, elle a tout essayé. Elle n'ose pas ouvrir la bouche dans un premier temps. Elle n'ose pas exposer son problème à Jésus. À l'inverse du chef de la synagogue, la honte l'emprisonne pour l'instant, mais elle veut toucher Jésus. Alors elle s'approche, elle fend la foule, elle rampe peut-être, elle va toucher Jésus. Et à l'instant, nous dit la parole, elle est guérie. Elle a cru, elle n'a pas parlé, mais elle a cru dans son cœur. Elle n'a pas tout compris, mais elle a cru dans son cœur. Dieu a mis dans le cœur de l'homme et de la femme la pensée de l'éternité. Dieu a mis en nous de quoi le trouver quoi qu'en tâtonnant. Mais là, elle n'a pas tâtonné. Elle a dit, je le toucherai. J'irai vers lui. J'entends aussi le fils prodigue qui, au fond du fond du fond de sa détresse, voici, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, je ne suis plus digne, mais j'irai. Elle a cru dans son cœur, mais Jésus va l'amener plus loin. La parole nous dit, se voyant découvert, Jésus a senti ce qui se passait. Il a su en son esprit que quelque chose s'est passé. Se voyant découverte, tremblante, elle va se jeter aux pieds de Jésus et déclarer, cette fois-ci devant tout le peuple, pourquoi elle l'avait touché Jésus et comment elle avait été guérie à l'instant. Maintenant, elle a confessé de sa bouche. Elle a confessé de sa bouche. Voilà ce qui m'amène. Voilà l'objet de ma honte. Voilà, je suis libre. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Je voudrais, souvent certains parlent de ce passage en disant, oh les médecins, ça sert à rien les médecins. n'est pas du tout ce que veut dire ce passage. Du tout. Ce n'est pas un plaidoyer contre la médecine, mais une situation qui glorifie le Seigneur. Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne, ne déclarait-il pas « Je le pensais, P.A.N., je le soignais, mais Dieu le guérit ». Le problème n'est pas la médecine, mais l'orgueil de l'homme qui oublie Dieu en exerçant la médecine, de la même manière que les richesses ne sont pas mauvaises en soi, mais que de se confier dans les richesses, c'est mépriser celui à qui tout appartient. Ne nous confions pas dans les richesses. Ne mettons pas notre confiance, ne pensons pas notre salut dans le capital constitué pour notre retraite, ne mettons pas notre salut dans les réserves de blé comme cet homme. Ce soir, je te redemande ta vie. Ne soyons pas enorgueillis des exploits de la médecine, mais remercions le Seigneur qui a donné aux hommes l'intelligence. Nous avons en ce moment, la petite, si tu oublies son nom, Joyce, je vois le papa, la maman, Joyce qui a vécu une greffe de moelle pour renouveler son sang, c'est une opération extrêmement délicate. Eh bien, je peux vous dire que c'est techniquement, on mesure mal. Et c'est une épreuve aussi de longue haleine. Mais nous avons déjà vu Dieu intervenir dans la préparation, puisque le petit frère qui a donné la moelle, il fallait que tout ça se synchronise, il ne fallait pas qu'il y ait d'infection. Mais les parents ont prié, la communauté a prié. Nous ne mettons pas ça sur le compte de notre prière, nous ne glorifions pas notre prière, nous glorifions celui que nous prions. Et Jésus intervient. Jésus est là, il intervient. Nous avons la petite Talia, nous présenterons, je pense, dans quelques semaines. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Que tremblant peut-être, on est tremblant, on a le doute. Ce chant qui dit en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais ce n'est pas grave. Seigneur, Seigneur, tu n'as pas changé. Alors on est tremblant, mais on vient à toi. Nous chanterons tout à l'heure. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Dieu de la résurrection, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu des délivrances, tu es le Dieu des libérations. Alors, nous avons vu ces trois situations. Je voudrais voir un peu les relations qu'il y a entre ces trois situations. Les trois miracles qui nous sont rapportés touchent l'être humain tout entier. Pour les démoniaques, c'est le domaine spirituel qui était au cœur du problème. Pour le chef de la synagogue, c'était son âme, ses émotions, ses sentiments. Ne mettons pas ça à la poubelle, c'est pas rien. Même si on est croyant, lorsqu'on a une épreuve de santé pour un de nos proches, pour un des enfants, pour un frère, un père, une mère, une sœur, nous sommes touchés. Reconnaissons, nous sommes touchés. Nous ne sommes pas de marbre, nous sommes touchés dans nos émotions, dans notre âme, dans notre psyché. Enfin, cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans aspirait à la guérison de son corps. Le Seigneur est celui qui guérit. Myriam le disait dans sa prière tout à l'heure, et délivre l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, et dans cet ordre. En effet, la mort est venue par les désobéissances d'un seul homme, nous dit Romains 5, et s'est répandue à tous. Cette mort, ce fut d'abord une mort spirituelle. Je rappelle que la mort, ce qui définit la mort, c'est l'absence de relation. Et la désobéissance en Éden a d'abord provoqué une mort spirituelle, une séparation de la présence de Dieu à l'instant de la désobéissance. Adam et Ève n'ont plus le contact avec Dieu. L'Éden a été interdit d'accès. Ce fut d'abord donc cette mort spirituelle, puis l'âme a été souillée par le mensonge qui est venu, la jalousie, la culpabilité, car le péché entraîne la culpabilité. La culpabilité, je rappelle, est liée au péché. Elle n'est pas liée à la loi qui révèle le péché. La culpabilité, elle est liée au péché. La culpabilité est donc venue avec ses tourments et le corps a été impacté. Et ça, aujourd'hui, les hommes le savent, des tourments de l'âme ont des conséquences sur le corps. On appelle ça psychosomatique. Et la vie des hommes a diminué progressivement. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Mathusalem, on dit vieux comme Mathusalem, c'est une expression courante. Mathusalem a vécu plus de 900 ans. Et puis nous avons vu au fil des siècles, la vie de l'homme se raccourcir de durée. La vie de l'homme dans son âme et son corps durer pour arriver autour de 70-80 ans, nous disent les psaumes. Alors, on a quelques centenaires aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que Dieu a fixé la limite de l'homme sur cette terre à 120 ans, jusqu'à ce que de nouveaux cieux et de nouvelles terres nous conduisent dans autre chose. Mais qu'est-ce que c'est quelques durées, même quelques dizaines d'années par rapport à 900 ans et par rapport à la vie éternelle? Donc, je disais, la mort est venue d'abord au niveau de l'esprit, puis de l'âme, puis du corps. Le tourment de l'âme sont la conséquence de la séparation de Dieu. Les tourments du corps sont la conséquence des troubles de l'âme et de la séparation de Dieu. Eh bien, c'est aussi dans cet ordre que celui qui promet la délivrance aux prisonniers, la liberté aux captifs intervient. D'abord, tes péchés sont pardonnés, plus de culpabilité, car le Fils de l'homme a ce pouvoir sur la terre, afin que vous croyiez. Et ensuite, la délivrance du corps. Je ne veux pas prolonger, je ne vais pas lire, mais je vous invite à lire dans Marc 2, l'épisode de ce paralytique qui est amené devant Jésus, parce qu'il n'y a pas de place, il y a encore la foule là, ils le descendent par le toit. Cet homme qui est paralytique, à votre avis, un paralytique, à quoi il aspire? Si ce n'est à être sur ses deux pieds. Eh bien, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et là, les religieux accusent. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, voici, lève-toi et marche. Et l'homme se leva. Mais ce que Jésus est venu faire, c'est traiter la racine, libérer du péché. Tes péchés sont pardonnés. Donc ces trois miracles nous soulignent que Dieu intervient sur notre être tout entier. Par tes meurtrissures, nous avons la guérison de l'être tout entier. Je vous en supplie, frère, ne nous trompons pas. Deuxième constante entre ces trois personnes. Ils n'ont pas fait la fine bouche. Ils n'ont pas dit « je suis bien malheureux parce que je suis enfermé avec mes démons. Je suis une victime parce que je sais que je suis malade et ce n'est pas juste. Je suis quand même responsable religieux. Je respecte les 10 commandements du mieux que je peux. Alors Jésus fait quelque chose pour moi. » Tous les trois, le même terme est employé. Ils se sont jetés aux pieds de Jésus. Nous sommes-nous jetés aux pieds de Jésus? Avons-nous connu des circonstances de nos vies où on n'en pouvait plus? Au cœur et au fond de leurs doutes, de leur souffrance, de leur « je n'en peux plus ». Ils se sont humiliés, laissant de côté le « qu'en dira-t-on ?» Laissant de côté leur révolte, le sentiment d'injustice, ou leurs droits, ou leurs connaissances. Et ils se sont écroulés, avec foi, aux pieds du Seigneur. Ils ont rejoint la foule des témoins de la foi, de ceux qui ont fait une rencontre avec Jésus. Vacillant, faible, ne comprenant pas tout. Comme ce père avec ce fils justement qui se jetait dans l'eau et dans le feu. Il ne sait plus. Mais il dit à Jésus, je crois en toi, mais viens au secours de mon incrédulité. Ou cet autre qui dit, si tu veux, tu peux me guérir. Et le Seigneur Jésus les a délivrés, guéris de toutes leurs angoisses. Ces trois situations nous parlent aussi de la prophétie d'Ésaïe, un jour de grâce que Jésus vient inaugurer. Ces miracles que Jésus a accomplis, il peut, il le fait encore aujourd'hui. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas le miracle que nous devons rechercher. C'est Jésus. C'est sa présence. C'est de bien comprendre que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, que nous croyons qu'il est cet homme sans péché qui a donné sa vie librement. Ma vie, nul ne la prend, mais moi, je la donne. Frères et sœurs, notre libération, notre marche jusqu'au bout, parce que il ne s'agit pas d'avoir reçu un jour, il s'agit de marcher jusqu'au bout, de saisir notre espérance, j'en reparlerai bientôt. Cette espérance, c'est que nous sommes là de passage, que notre esprit a été régénéré par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Alors cela, c'est parfait, parce que si l'Esprit de Dieu a touché notre esprit, alors nous sommes en communion avec lui. Et notre âme, elle est en cours d'être régénérée. Quant à notre corps, vous le savez, il est encore voué à la corruption. Mais lorsque Jésus paraîtra, il revêtra l'immortalité. Car la chair ne peut recevoir l'immortalité, ne peut hériter la vie éternelle. Donc la vie éternelle, nous l'avons par l'Esprit. Nous pouvons commencer à la manifester dès ici-bas. Mais pour notre corps, ce sera chose faite lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors il nous faut marcher jusqu'au bout, dans une foi agissante par l'amour et dans l'espérance. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu des délivrances, tu es le Dieu qui libère les captifs, tu es celui qui libère de la honte, qui libère de tous les enfermements. Seigneur, tu nous connais tout entier. Tu es lumière qui vient éclairer les ténèbres. Seigneur, je te prie que ce matin, si plusieurs sont enfermés dans des choses qui les conduisent à la honte, ne savent plus comment s'en sortir, qu'ils puissent ce matin, Seigneur, se jeter à tes pieds. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Je veux, avec mes frères qui te connaissent, être témoin de ces choses. Nous avons connu dans nos vies, nous les connaîtrons encore. Seigneur, nous marchons dans un corps de chair, mais les armes avec lesquelles nous luttons, elles sont spirituelles et puissantes pour renverser toutes les puissances de ténèbres qui veulent retenir par la crainte de la mort, par la crainte de la honte, les frères et sœurs captifs. Tu es le Dieu de grâce, tu as tout accompli. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été crucifié avec toi à la croix. Je le proclame. Je te demande, Père, dans ta miséricorde, d'agir encore au milieu de nous ce matin, Père. Amen.